Bonjour, eh bien, avec Elisabeth, nous nous retrouvons pour les mots de la foi et nous vous proposons de travailler ou de réfléchir au texte sur l'économie et les questions financières pour une approche éthique des finances qui a été élaborée par la Congrégation pour la doctrine de la foi et le dicastère pour le service du développement intégral. Alors, de fait, la doctrine sociale de l'Église n'est pas nouvelle. Déjà, Paul aux Corinthiens invite les Corinthiens à procéder au partage de leurs ressources et à discerner ce qui permet que chacun soit dans l'égalité des conditions. C'est donc pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a de tels moyens financiers et d'une telle financiarisation de l'économie que le dicastère sur ces questions a commis un texte. Et voilà, on vous propose de parler de ce texte, de lire ce texte. Voilà. Donc, c'est un document qui a été, non pas rédigé par le pape, mais rédigé par une commission ad hoc qu'il a approuvée et il a proposé que ce document soit donné aux chrétiens au mois de janvier 2018. Donc, dans l'introduction, il explique que c'est tout à fait important, puisque aujourd'hui, je cite, plus que jamais, les problèmes économiques et financiers attirent notre attention en raison de l'influence croissante des marchés sur le bien-être matériel d'une bonne part de l'humanité. Voilà. Il y a la vie des gens dépend finalement des décisions financières qui sont prises par quelques-uns, que ce soit à Davos ou à la Banque mondiale. Donc, le dicastère et l'Église proposent une juste régulation des dynamiques, un fondement éthique clair, une alliance, dit-il, je cite, entre savoir technique et sagesse humaine, sous peine de voir tout agir humain se pervertir. Voilà pour les objectifs. De l'Église.
De l'Église, parce que le bien commun que l'Église recherche, le but de toute activité ecclésiale, c'est la promotion du bien commun et ce bien qui est une anticipation du royaume de Dieu. Donc l'Église peut se mêler de ces questions-là.
Ah oui, c'est vrai, parce que d'aucuns pourraient dire « renvoyons l'Église à sa sacristie ». Donc, et puis, pour justifier aussi cette intervention, les autorités de l'Église rappellent que, finalement, l'idéal de la civilisation de l'amour s'enracine dans la sagesse d'un Dieu créateur, que c'est là qu'est le fondement pour construire une vraie communauté d'hommes gouvernée par des lois fondées sur une vraie justice. En pensant, c'est au numéro 4 de ce document, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin que la politique et l'économie en dialogue se mettent au service de la vie humaine.
Oui, Dieu, effectivement, vient à la rencontre de l'homme en Jésus et le texte dit, ne rachète pas seulement l'individu, mais aussi les relations sociales.
Mais ça, c'est intéressant. C'est véritablement la résurrection, ce n'est pas que pour l'homme individuellement, mais aussi pour les relations de l'homme entre eux. Ce nouvel ordre de relations fondé sur la vérité et l'amour, le vin de transformation d'histoire. Donc, ne plus se fier à des critères obsolètes qui continuent de gouverner le monde, à savoir l'argent.
Oui.
Bien que ce ne soit pas l'argent qui est mauvais en soi, mais peut-être les manières d'utiliser l'argent des hommes.
Oui, cet égoïsme qui semble prévaloir, qui ne s'intéresse qu'au court terme et qui fait fi du bien commun, qui refuse de partager la richesse, d'éliminer les inégalités qui sont si importantes aujourd'hui.
Et alors là, je rappelle que c'est le document de l'Église et pas de je ne sais quelconque syndicat.
Oui, parce qu'ils insistent, ce qui est en jeu, c'est le véritable bien-être de la plupart des hommes et des femmes de notre planète, la plupart, qui risque d'être mis de plus en plus en marge exclu, rejeté du progrès de la prospérité.
Voilà, alors ça ne veut pas dire que le pape condamne les agents économiques, mais il leur fait confiance au contraire. Il revient d'abord aux opérateurs compétents et responsables, donc à ces économistes, d'élaborer de nouvelles formes d'économie et de finance dont les pratiques et les règles visent le progrès du bien commun, le respect de la dignité humaine, en se basant sur le socle sûr de l'enseignement social de l'Église. Ce qui amène l'Église à entreprendre la réflexion éthique dont on propose de donner les éléments aujourd'hui, justement.
Vous écoutez Radio Grand Ciel.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Et alors, il y a une première partie qui s'intitule « Considérations élémentaires de base », dans lequel on dit « Il n'existe pas de recette économique valable en tout lieu et tout temps. Mais il faut vivre l'activité humaine sur l'horizon d'une juste éthique. »
Et pour cela, il faut qu'elle soit orientée vers le bien commun, et c'est ça qui peut être positif.
Voilà, alors le pape insiste sur le caractère relationnel fondamental de l'homme, sur le fait qu'on ne peut déshumaniser l'économie et les échanges de biens en les réduisant à de simples échanges de choses. La transmission des biens entre les personnes n'est pas seulement d'ordre matériel, mais aussi intervient l'humanité.
Oui, c'est ça qui va déterminer la présence ou l'absence de qualité dans ce rapport économique, la confiance, l'équité, la coopération, etc.
Et de ce fait, le pape conclut, chaque personne naît dans un contexte familial au sein de relations qui le précèdent et sans lesquelles il lui serait impossible d'exister, puisque cette communion met en relation les personnes et leur donne l'empreinte de Dieu qui a créé ces personnes et qui appelle à cette relation de communion qui oriente vers la vie. Donc, ces questions économiques ne sont pas simplement des questions économiques ou des questions un peu à côté de la foi, mais qui sont fondamentales, puisqu'il s'agit d'une affinité avec Dieu qui l'a créé. Donc, on mesure les choses, non pas quantitativement en termes d'efficacité et de production de profit, mais en termes de qualité de vie qui permet aux hommes de vivre et qui permettent, je cite, « la capacité à œuvrer pour le développement de tout l'homme et de tous les hommes ». Et là, on rappelle les textes de Paul VI, mais aussi de Jean-Paul II, etc., le catéchisme de l'Église catholique, donc dans des perspectives qui vont bien au-delà du court terme et qui mettent une vision complète de l'homme. Donc, comment évaluer l'économie avec des critères plus amples que ceux du PIB?
Oui, parce que le PIB, c'est quelque chose qui est très, j'allais dire mathématique, mais qui ne prend en compte que des chiffres et qui oublie le capital humain, la qualité de la vie sociale et du travail. Et ce texte insiste sur le fait que le profit peut toujours être recherché, mais pas à tout prix.
Il y a d'autres paramètres. Alors, ces autres paramètres sont l'humanisation, les formes culturelles, les mentalités, et puis aussi la gratuité, en somme, la découverte et la réalisation du vrai et du juste comme des biens en soi. Et c'est ça qui doit être la norme et pas simplement le prix de revient.
Et à ce moment-là, les gains et la solidarité ne sont plus antagonistes. Et on arrive à une circularité entre le gain et le don.
Alors ça, c'était un texte déjà de Benoît XVI qui évoquait cela, mais qui renvoie aussi à Matthieu ou à Luc. Donc, c'est plus ancien que contemporain. Au paragraphe 12, le pape insiste, « Aucune activité économique ne peut prospérer de manière durable si elle ne s'insère dans un climat de liberté d'initiative. Et là aussi, l'initiative, à qui elle revient. Voilà des critères de fonctionnement qui sont donnés au passage dans ce texte.
Oui, parce que aujourd'hui, la liberté des acteurs économiques tend à générer des centres de suprématie, incline vers ce qu'on appelle une oligarchie, et qui va à terme nuire à l'efficacité même de ce système, parce qu'on arrive à des pôles extrêmement restreints qui possèdent le pouvoir.
Alors, qui possède le pouvoir, qui possède l'argent et qui s'impose même aux hommes politiques. En fait, maintenant, dans un État, on a des entreprises qui ont... Le budget de l'entreprise est supérieur au budget de l'État dans lequel il s'insère. Donc, c'est non plus l'ensemble de la population qui va pouvoir décider de l'école pour les enfants, de l'hospitalisation pour ceux qui sont malades, des soins à donner aux personnes âgées, mais c'est eux qui décident de ce qui est bon pour l'économie. On voit dans certains traités économiques que, eh bien, on s'exonère de la justice, tout simplement en disant, eh bien voilà, je reconnais que j'ai tort, eh bien je vous donne telle somme, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Donc là, il y a véritablement un fonctionnement qui est un déni de l'homme, et qui fait des hommes des sujets soumis à des intérêts étrangers. Le pape insiste, une alliance renouvelée entre les agents économiques et les agents politiques est plus que jamais urgente là où il se trouve, en système de subsidiarité, c'est-à-dire à tous les niveaux, pour promouvoir ce qui sert le développement accompli de chaque personne humaine, de toute la société, en conjuguant les exigences de solidarité et de subsidiarité. Chacun a un rôle, il ne doit pas simplement subir.
Oui, parce que, en principe, tous les systèmes, les moyens sont moralement admissibles. Tout ce qui sert au marché à accroître leur capacité de distribution, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la dignité de la personne ou au bien commun.
Et alors là, eh bien, on peut simplement, et le pape le rappelle, les marchés ne peuvent ni produire les conditions qui permettent de se développer dans les règles de cohésion sociale, d'équité, de confiance, de sécurité, dans les lois, ni tenir compte des besoins de la société humaine. Et on a inégalité, dégradation de l'environnement, insécurité sociale, fraude. On cherche l'endroit où on va déclarer les bénéfices pour payer le moins d'impôts, etc., etc. Donc, il n'est pas possible, pose le pape, d'ignorer que l'industrie financière, en raison de son omniprésence, domine l'économie mondiale et constitue des cas d'immoralité proche, inacceptable du point de vue éthique, dit-il. Donc là, on voit bien qu'il y a un fonctionnement sur lequel nous devons réfléchir et sur lequel nous devons revenir. Bien sûr, on rappelle qu'il incombe à l'acheteur de vérifier la qualité du bien acquis, mais à condition qu'on puisse avoir les informations.
Oui, parce que dans la complexité actuelle, cette situation rend l'acheteur incapable de comprendre ou de savoir ou de trouver ce qu'il y a derrière ce qu'il achète.
Oui, parce que bon, dans la voiture, la deux chevaux, on pouvait effectivement ouvrir le capot et regarder ce qui n'allait pas. Mais maintenant, il faut quand même l'ordinateur pour vérifier si le circuit de la voiture marche bien. Donc, dire, eh bien, c'est l'acheteur qui fera la différence. Eh bien non, il y a peut-être aussi des règles éthiques à retrouver, à développer. C'est ce que nous dit le pape dans cet enseignement que nous retrouverons la semaine prochaine. Puisque le temps s'achève, je rappelle le texte auquel vous pouvez vous référer. Il s'agit d'un texte qui s'appelle « Economicae et pecuniaria et questiones ». Et si vous mettez ça, vous mettez tout simplement « Économie et finances » et vous trouvez ça sur Internet. Je vous dis bonne semaine à tous, au revoir.